Il existe plein de sujets sur lesquels il est facile de se mettre d'accord, et ça vaut aussi pour les métiers et le travail. Certains métiers, eux, au contraire, quand on les annonce, suscitent pas mal d'interrogations ou de débats. Je pense par exemple au métier de gestionnaire financier, de lobbyiste, d'avocat, même de professeur ou encore footballeur. Mais il y en a quand même quelques-uns où, sincèrement, on ne peut que penser du bien, on ne peut qu'avoir les yeux qui brillent ou l'imaginaire qui s'emballe ou en tout cas que des bonnes images qui nous viennent. Et pour le métier du jour, on est en plein dedans. Comment ne pas être fan du métier d'artisan confiturier ? Salut, moi c'est Laura et vous écoutez Into the Job. Bienvenue à vous si vous écoutez le podcast pour la première fois, j'espère que ça vous plaira. Et pour celles et ceux qui me suivent depuis longtemps, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Ici, on est très loin des fiches métiers que l'on peut retrouver un peu partout. Je vous propose des témoignages de la vraie vie au travail. Avec mes invités, on parle de leur mission concrète, de l'organisation au quotidien et des clichés qui sont parfois vrais, parfois faux, autour de leur métier. Et aujourd'hui, on va parler d'un métier artisanal qui n'est plus si répandu en France, mais qui pourtant parlera à tout le monde, car tout le monde connaît la confiture et on est une grande majorité à en consommer régulièrement. Alors, qu'elle soit classique, la fameuse confiture de fraises, confiture d'abricot, ou plutôt exotique, faite maison ou produite de manière industrielle, la confiture, c'est généralement un sujet fédérateur. Et je dois dire que ça fait du bien dans un monde où tout peut devenir sujet à réflexion et à critique. Sandrine est artisan confiturière depuis 5 ans. Alors on dit artisan confiturière, on peut aussi dire chef confiturière ou maître confiturière, j'ai vu les trois. En tout cas, depuis qu'elle a ouvert sa boutique, la fabrique de confiture, elle a énormément appris et évolué jusqu'à aujourd'hui sortir son propre livre de recettes. Mais faire de la confiture son métier, c'est pas seulement faire comme votre grand-mère ou comme votre oncle qui cuisine et qui vous donne des pots chaque année. C'est une sacrée organisation qui demande de la technique, de l'anticipation, de la patience et aussi beaucoup de créativité. Et celle de Sandrine, vous allez le voir, n'a pas de limite. Alors préparez-vous à saliver dans cet épisode. Je vous le dis, ça donne très très faim. Vous allez entendre beaucoup de recettes. Vous m'en direz des nouvelles. Je vous souhaite une bonne écoute. C'est parti. Bonjour Sandrine.
Bonjour.
Merci de m'accueillir aujourd'hui. Alors on est dans ta boutique à Vincennes, la fabrique de confiture. Alors avec ce nom, on sait que on sait directement le sujet. Et ce qui est génial, c'est qu'on enregistre dans les cuisines. Donc c'est du jamais vu pour moi. On est vraiment au-dessus de tes plaques.
Exactement.
Bon voilà, donc on peut pas être plus au cœur du sujet. C'est ici que tu fabriques et que tu vends toutes tes confitures.
Oui.
Et bon alors c'est dommage parce que tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui ne peuvent pas sentir tes confitures ou les voir, mais on va essayer de mettre tout le monde dans l'ambiance. Et je commence par ma question traditionnelle. Est-ce que je peux te demander, Sandrine, de m'expliquer en quoi consiste ton métier ? Est-ce que tu te dénommes maître confiturière ?
Oui, je suis artisan confiturier, confiturière même, parce que c'est en petite quantité. Tout est fait à la main, donc il n'y a aucun appareil qui se rajoute à mes mains. Que ce soit à la préparation des fruits, à la cuisson des fruits et à la mise en pot. Donc, on s'appelle le artisan confiturier.
Toi, tu as ouvert cette boutique il y a 5 ans, c'est ça ?
5 ans, oui, okay. Exactement.
Et donc là, tout ce que tu fabriques ici est vendu ici ?
Oui.
Et tu vends aussi d'autres produits, d'autres marques ?
À l'extérieur, on a quelques points de vente à l'extérieur des hôtels. Aussi, on travaille avec des hôtels et quelques épiceries fines. Et dans la boutique, il y a une partie épicerie fine, donc où il y a un petit peu de salé. J'essaye de travailler avec des gens qui sont comme moi, des artisans, pas trop loin de Paris, qui fabriquent, par exemple, les Sept Collines, avec qui je travaille, dans le 18e. Ensuite, vous avez une petite partie sucrée et une partie bonbons vintage que j'ai voulu développer à l'ouverture de la boutique.
Ok. Est-ce que tu sais si vous êtes beaucoup en France, artisans confituriers ?
Artisans confituriers, on doit être à peu près une vingtaine, je pense. Vingtaine d'artisans confituriers.
Donc très peu.
Oui, pas beaucoup. Alors, il y en a beaucoup dans l'est de la France et surtout dans le sud.
Oui, parce qu'il y a...
Avec la provenance des fruits. Donc, Paris, région parisienne, on est peut-être 3-4, on n'est pas beaucoup.
Ok, avant de s'embarquer dans ton quotidien, j'aimerais juste que tu nous précises quel type de confiture tu fabriques pour qu'on se projette un peu mieux. Qu'est-ce que tu fais? Si j'ai bien retenu, tu fais des, on appelle ça donc monofruits, oui, un seul fruit, et tu fais aussi fruit, des compositions plus originales.
Exactement. Donc, dans tous les fruits que je travaille, je fais d'abord des monofruits, donc la fraise, la framboise, l'abricot, et ensuite je la décline en différentes recettes.
Ok. Et déjà, pour que tout le monde, on soit tous bien alignés, on ne doit pas confondre la confiture avec la gelée.
Et la marmelade.
Et la marmelade.
Exact.
Tu fais aussi de la marmelade ou pas?
Oui.
Ok.
Oui.
Et ce qui est super sympa, c'est que tu n'utilises d'ailleurs pas que des fruits. On est d'accord?
Non. J'utilise aussi des légumes et des pommes de terre, par exemple. Ça m'arrive aussi, ouais, de faire des confitures à base de pommes de terre. Des courgettes, des petites aubergines, des carottes. J'ai fait beaucoup de séries à base de carottes. Carottes passion, carottes avec des figues et des dattes. Voilà, j'essaye de trouver plein de nouvelles recettes inédites, surtout pour accompagner, par exemple, les fromages ou la viande. Voilà, donc j'essaye de décliner au maximum.
Et aussi des épices, on est d'accord.
Beaucoup d'épices.
Ouais.
Ma passion, les épices.
Comment est-ce que tu choisis justement tous tes ingrédients?
Alors, déjà, tout ce qui est fruits, c'est au goût. Déjà à l'état pur du fruit, il ne faut pas que le fruit soit trop mûr, contrairement à ce qu'on peut penser. On ne peut pas faire une belle confiture si les fruits sont abîmés, déjà. Si vos fruits sont abîmés, vous allez avoir un petit goût, enfin bon, c'est pas terrible. Donc il faut que les fruits soient bien juteux, bien sucrés, justement pour enlever au maximum le taux de sucre. Parce que moi, dans mes confitures, je ne veux pas enlever le goût du fruit, donc je ne rajoute pas beaucoup de sucre. Et il n'y a pas de gélifiant ni de conservateur. Il y a beaucoup de fruits, très peu de sucre et du citron qui me sert de pectine. Et donc déjà goûter les fruits à l'état pur. Ensuite, tout ce qui est épices, c'est à fur et à mesure de mes voyages ou de ce que je goûte, de ce que je trouve. Des gens que je rencontre beaucoup qui me disent, tiens, j'ai ça aujourd'hui, est-ce que vous voulez essayer? Donc voilà, je découvre à fur et à mesure. Dans le temps de mon travail aussi.
Ouais. Est-ce qu'il y a des ingrédients que tu t'interdis?
Non, pas du tout.
Ok. Pas et donc, tout. Tu fais des confitures monogoût, des confitures avec plusieurs ingrédients, mais aussi ce que tu fais, c'est qu'il y en a qui sont toujours, il y a des éditions qui sont toujours en magasin.
Oui.
Et d'autres qui sont en édition limitée.
Limitée.
C'est
voilà.
Ça.
Par exemple, bon, je vais toujours faire des monofruits, parce que ça, c'est... Ça plaît quand même beaucoup aux clients, les monofruits. Après, nous, dans la boutique, ce que les gens apprécient beaucoup, c'est qu'il y a des confitures éphémères, par exemple. Pour la fête des mères, je vais faire une confiture. Pâques, je vais faire une autre confiture. La fête des pères, Noël, etc. Mais il y a quand même des confitures que je fais maintenant régulièrement parce que, justement, ça a bien plu à une certaine période ou à une certaine fête. Donc, je continue à faire, mais il y a toujours des confitures éphémères, oui.
Et tu peux nous donner un exemple d'une confiture, justement, qui est restée, parce qu'elle a beaucoup plu, et une confiture qui est éphémère, qui est en ce moment, par exemple, dans ta boutique?
Par exemple, au départ, la fraise yuzu, j'avais pas prévu de la continuer tout le temps, parce que je faisais déjà de la framboise yuzu, et les gens ont beaucoup aimé. Donc, moi, je marche aussi avec le retour et ce que les gens aiment beaucoup dans le magasin. Ont beaucoup aimé l'association de la douceur de la fraise et le côté acidulé du citron japonais. Du coup, ça, je la continue. Et il y a des confitures, par exemple, pour la fête des mères que j'ai fait l'année dernière. C'était de la fraise avec des fleurs de coquelicot. Je l'ai faite pour la fête des mères. Là, on m'en redemande. Donc, peut-être que cette année, je vais la faire... pour en avoir toute l'année qui dure plus longtemps, quoi, dans le temps.
Alors, on va passer un peu à ton quotidien et à tes journées en boutique. Par quoi est-ce que tu commences toujours ta journée?
Alors, d'abord, je commence par un petit café, parce que c'est la chose la plus importante pour moi. Un petit café, et après, j'enfile mon tablier et je suis partie, donc... C'est du non-stop parce que j'ai la tête dans le guidon. Une fois que je suis partie, je ne m'arrête plus. Mm-hmm. C'est déjà l'arrivage des fruits, le tri des fruits, le nettoyage, l'épluchage. et la mise en route des chaudrons, donc la préparation soit en cuisson rapide, c'est-à-dire avec un sirop, et les fruits en cuisson en 20 minutes, ou ce qu'on appelle la cuisson à la royale, c'est la macération des fruits, par exemple pour ce qui est tout ce qui est agrumes, l'orange amère notamment que j'ai fait là dernièrement. L'orange amère, c'est beaucoup de préparation, donc il faut éplucher les fruits, couper les zestes, les laisser macérer toute une nuit dans du sucre et du citron, et le lendemain la passer en cuisson. Donc ça me prend quand même beaucoup de temps, parce que quand vous avez des cerises à dénoyauter ou des litchis par exemple, c'est très long à faire. La fraise aussi à équeuter, hein, ça prend quand même beaucoup de temps. Donc bah, c'est déjà toute la préparation avant de passer à la cuisson. Ensuite bah, la cuisson, la mise en pot, la vérification du taux de sucre et tout ce qui suit bah, derrière, hein, le nettoyage, le rangement des pots, l'étiquetage... Voilà, c'est toute la journée non-stop.
Et j'imagine que tu es sur plusieurs productions en même temps, peut-être deux à la fois, ou tu n'es que sur une seule dans ta journée. Si tu commences par faire tes fraises, est-ce que tu es que sur de la fraise toute la journée?
Alors, si... maintenant, je trouve que je suis un peu mieux organisée qu'au départ. Quand j'ai de la fraise, par exemple, quand j'ai 100 kilos de fraises à traiter, évidemment, toute la semaine, je vais faire que de la fraise, avec différentes recettes. Ça m'arrive d'avoir de la fraise et de la framboise en même temps. Donc là, comme j'ai 4 chaudrons, je mets 2 chaudrons et 2 chaudrons en cuisson différentes.
Ok, parce que là, tu as la capacité dans ta cuisine de faire combien de chaudrons à la
4.
Fois
4. 4 chaudrons, okay. Ouais. 4 chaudrons à la...
Qui sont des chaudrons un peu différents les uns des autres, ou ils sont...
Non. De toute façon, moi, je fais que des chaudrons de 5 kilos. Mm-hmm. Donc, je ne vais pas au-delà de 5 kilos de fruits. Donc, un chaudron, 5 kilos, et les trois autres, pareil.
Ok. Donc, tu peux en faire. Donc, tu peux aussi te dire, je fais ma fraise, et donc, je vais faire des pots, ce sera que de la fraise, mais je prépare aussi de la fraise pour une composition,
exactement.
C'est ça, avec
oui.
Plusieurs ingrédients. Ok. Est-ce que ça t'arrive, enfin, j'imagine que tu n'as pas le temps de passer en boutique une tête et de faire autre chose que tes
cuisines. C'est un peu difficile quand même, parce que quand je suis en cuisson, c'est difficile pour moi, parce qu'il faut que je sois derrière les chaudrons, et je peux m'autoriser 5 minutes à aller à la boutique, mais je l'ai fait au début, maintenant je ne peux pas, parce que je suis obligée d'arrêter, de baisser le feu, de repartir, de revenir, donc... et j'avance pas en fait dans la journée, donc le mieux c'est que je reste derrière mes chaudrons. Par exemple, quand je fais du caramel beurre salé, ça m'est arrivé de le cramer, hein, pour être poli, parce que je devais aller en boutique et que du coup ça doit être surveillé au millimètre près, et que bah ça cuit ou ça prend pas assez. Donc je m'autorise maintenant des jours de cuisson, et le samedi j'essaye d'être principalement au magasin.
Ok. Ouais. Parce que sinon, t'as combien de journées de cuisson environ par semaine ?
Oh ben, la cuisson, c'est du lundi au vendredi maintenant. Okay. Et le samedi, je préfère être au contact des clients. Donc, c'est un peu dommage pour les clients, parce que du coup, il n'y a plus d'odeur. Ils ne me voient pas travailler le samedi. Et puis déjà, je suis toute seule. Et donc, mon fils Alexandre est tout seul à la boutique. Et c'est difficile, quoi, de faire les deux correctement. Donc, ouais. Voilà.
Et bien, justement, ta fabrication de tous les jours, donc en fait, j'imagine que c'est en fonction de la saison et des arrivages.
Exactement.
Des fruits, c'est quoi ? Il y a des saisons, j'imagine, qui sont un peu plus intenses que d'autres, parce qu'il y a beaucoup plus de...
Ben, l'hiver, de c'est la plus calme, entre guillemets, parce que c'est que des agrumes. Là, le printemps arrive, on va recommencer pour nous, c'est la grosse saison, hein, les fraises, après l'abricot qui arrive, le melon. Donc, il faut faire le stock pour toute l'année. Parce que, évidemment, je ne fais que des fruits de saison. Donc, quand j'ai plus de fraises pralines, par exemple, je ne vais pas faire de la fraise praline au mois de décembre. Donc, je ne fais que la saison du fruit.
Ouais. Ouais. Combien de pots ou quelle quantité tu fais par jour environ ?
J'arrive à faire entre 300 et 350 pots par jour.
Okay. Qui sont de combien chacun ?
250 grammes.
Ok, d'accord. Et comment ta production, ça se répartit entre ce que tu vas stocker et mettre en magasin, et tu me disais, t'as des commandes aussi à côté.
Oui.
Comment ça se répartit?
Alors, par exemple, pour les fêtes de Noël, je fais une confiture de fraises avec du champagne. Ça, je la prépare au moment de la fraise. Je stocke à la cave. On a une cave juste en dessous du magasin où on a notre stock, que je garde exprès pour les fêtes de Noël. Quand je fais de la figue avec du miel de thym, par exemple, et du thym frais, des graines de nigel, je sais que ça va être pour Noël. Donc, c'est quelque chose que je prépare en avance, que je garde. Et tout ce que je mets à la boutique, c'est les fruits de saison.
C'est pour un instant T.
Ouais, exactement.
OK. Ou alors là, si aujourd'hui, donc là, on est en mars, je suis dans ta boutique et je vois de la fraise, c'est de la fraise de l'année dernière.
Exactement.
OK.
Ouais.
Et quand tu fais une recette originale, est-ce que tu sais à l'avance, tu te dis combien de pots ou quelle quantité tu vas faire?
Non. J'essaye, donc comme je fais les chaudrons de 5 kilos, je fais à peu près une trentaine de pots. J'en fais, on va dire, une centaine pour avoir un peu de stock. Mais comme c'est des confitures qui sont éphémères, quand il n'y a plus, il n'y a plus.
Oui, voilà. Quand il n'y a plus, ouais, ouais. J'imagine. Et en effet, oui, c'est ça qui est particulier, c'est de te dire que y a quand même des clients qui vont te dire « Non, mais en fait, cette édition-là, moi, je l'aime beaucoup. Est-ce que l'année prochaine, tu pourras en refaire ?»
Donc, les gens, maintenant, au bout de 5 ans, ils ont l'habitude avec la boutique. Souvent, quand ça leur a plu et qu'ils veulent avoir la même chose, ils me demandent « Sandrine, par exemple, une confiture que j'avais faite avec du butternut, du chocolat blanc et des noisettes. Les gens, septembre, Sandrine, si vous faites de la butternut, vous pouvez me mettre autant de pots de côté pour même si je n'avais pas prévu de la faire. Quand je fais ce légume ou ce fruit-là, et ben du coup, je vais leur faire exprès des pots pour ma commande, en fait.
Attends, mais j'ai une question. Est-ce que c'est une confiture? Si c'est à
oui.
base de... Non, parce que là, je suis perdue.
Oui, c'est
parce qu'il y a un fruit dedans.
C'est du butternut, du chocolat blanc et ouais. des noisettes.
Ah oui, donc c'est le butternut qui tient lieu
Exactement.
De...
Oui.
Qui fait que c'est une confiture.
Une confiture avec le sucré. Le sucre, oui.
Ça marche. Et est-ce que ça t'arrive de faire des recettes vraiment sur mesure? Des gens qui te disent, Sandrine, s'il te plaît, je voudrais une confiture de...
Exactement. Bah, par exemple, des gens qui se marient. Donc, on part sur une base. Je leur dis, voilà, moi, par exemple, je travaille l'abricot avec la fève de tonka. Et ils me disent, je voudrais quelque chose d'un peu plus gourmand. Donc, je leur fais des tests. Ils viennent goûter et c'est une confiture qui est spécialement pour, le mariage, que je ne vais pas commercialiser en boutique. Voilà.
Ça, c'est génial.
Après, s'ils la veulent, il faut me commander des pots l'année suivante.
Voilà, c'est ça, pour les un an de mariage.
C'est ça, ou les baptêmes. Par exemple, on a une cliente qui a baptisé ses enfants et qui voulait... la fraise avec de la praline et je ne sais plus ce que... Enfin, dans ma recette, c'est de la fraise, de la praline et de la vanille. Et elle voulait une fraise avec de la praline et on avait rajouté de la fève de tonka à la place parce qu'elle préférait la fève de tonka. Donc après, je travaille à façon. Ça s'appelle le travail à façon.
Moi, c'est génial. Et alors, tu parlais du stockage rapidement, donc tu as une cave, c'est ça, en dessous.
Oui.
Donc, c'est là où tu stockes tout.
Oui.
Donc, j'imagine que ça doit être une sacrée organisation.
Oui. Tout est noté avec donc la date de production, ce qu'il y a à l'intérieur, le nombre de pots qu'il y a à l'intérieur. Et donc, on sait, par exemple, là, la saison va recommencer, que Noël, c'est à tel endroit et que tout ce qui va être fait pour Noël cet été... ce sera mis à tel endroit. Les confitures éphémères, ça, on les met direct en magasin. On ne les stocke pas puisque c'est que très court, quoi. Et après, le reste, les fraises, les framboises et tout ce qu'on fait toute l'année, ouais.
Mais je me dis, en fait, en t'écoutant, que si on veut vraiment voir toutes tes nouveautés, il faut venir tout le temps, en fait.
Oui.
T'as pas de planning
tout le temps. Non, il n'y a pas de planning et c'est suivant mon inspiration. Donc, ça change tout le temps.
Justement, tu parles de ton inspiration. Moi, je me demandais comment est-ce que te venaient tes recettes parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu l'équipe qui, pour qui ça va être réfléchi longuement. Mmh. On va se poser une première fois, on va tester des choses, on va revenir avant de la formaliser. Et puis, il y a les équipes un peu plus... freestyle.
C'est ça. C'est tout à fait moi.
Ok, donc toi, t'es plutôt... ça te vient sur le moment.
Ça me vient sur le moment. Je vais, par exemple, faire... une confiture de carottes. Et puis je me dis, ben tiens, ça me fait penser à ça. Enfin, souvent, c'est des choses qui me rappellent aussi mon enfance, moi, ou une période de ma vie. Du coup, je me dis, ben la carotte, je vais rajouter des figues, des dattes. Ça me fait penser à un loukoum, donc je vais mettre de la fleur d'oranger avec de l'eau de rose. Et je suis partie comme ça. Donc, ben, j'ai la chance de faire des petits chaudrons aussi. Je fais pas des 100 kilos de fruits, parce que si ça marchait pas... Et c'est là tout le côté artisanat et un peu créateur, entre guillemets, qui ouais. Moi, qui me plaît beaucoup, c'est ça, c'est de la création. C'est de faire des petites quantités avec des choses gourmandes, que je sente ce que je fais à la vue, au toucher, à la mise en peau, de par transparence dans le pot, quoi. Quand c'est gourmand et tout ça, moi, c'est ce qui me plaît. Ce qui me plaît beaucoup, en fait, c'est ça, c'est la création.
Donc, tu as ton idée, tu testes directement, et donc voilà. Ça part directement au magasin. Ça peut aller très vite, au final.
Ah bah, ça va très vite. Alors, soit je fais goûter au client, bah tiens, je suis en train de faire ça, hop, il goûte à chaud comme ça la confiture, et c'est là tout l'avantage d'avoir mon atelier derrière, où mes enfants ou mon mari, souvent, quand ils viennent, je leur dis, bah tiens, tu goûtes ça, Cet hiver, j'avais fait, par exemple, de la quetch avec des noix, avec du vin chaud. Donc, c'était très gourmand, très Noël. Et voilà, je l'ai fait cette année. Je ne sais pas si je la referai l'année prochaine, mais en tout cas, voilà. Et puis aussi, des demandes de clients qui me disent souvent, « Ah ben tiens, ma grand-mère, elle me faisait ça. » Un jour, par exemple, il y a un monsieur qui est venu, qui était très ému parce que... J'étais en train de faire de l'ananas et il me dit, moi, ma grand-mère, elle me faisait de l'ananas, poire ananas. Ben, je dis, écoutez, je vais vous faire la poire ananas. Il me dit, c'est vrai. Alors, il était touché parce que ça lui rappelait sa grand-mère. Et je lui dis, ben, venez la semaine prochaine, je vous ferai poire ananas. Donc, il était très heureux et ému de retrouver ses saveurs d'antan. Et le fait que je lui fasse ça pour lui, quoi, en fait. C'était ça qui était très touchant.
Oui, et pas en grande quantité pour le magasin, quoi.
Non.
Et donc, tu fais goûter au plus possible quand même tes créations avant que ça sorte.
Oui.
Et après, j'imagine qu'une fois que c'est en magasin, tu demandes aussi des retours. Ou alors, ça vient naturellement,
peut-être. Ça vient naturellement, oui. Souvent, les gens me disent, j'ai goûté ça. Ou alors, quelquefois, même quand je fabrique, je leur donne un petit pot, je leur dis, bah, tenez, laissez refroidir, vous goûterez demain à la maison. Et puis, ils viennent 15 jours, 3 semaines après. Ah bah, vous m'aviez donné ça, mais moi, je me souviens plus de ce qu'il y avait dans le pot. Donc, vous étiez en train de faire ça, vous m'aviez fait goûter, mais je sais plus ce que c'était. Ou je leur donne une petite cuillère comme ça à la fin de cuisson et en fait je me souviens plus du moment
de ce qu'il y avait
du moment. Ouais.
Ouais.
C'est rigolo.
Oui, j'imagine. Avec quels outils tu travailles? On a parlé de tes chaudrons, mais oui. Avec quels autres outils à part tes bras?
Alors, d'abord c'est le chaudron en cuivre, une balance, les pots évidemment, les couvercles, une louche. Une louche avec un bec verseur pour fermer, pour mettre mes confitures et le couvercle.
Voilà. Et dans le chaudron, tu remues avec quoi?
Avec une spatule. J'ai un réfractomètre aussi. Donc ça, c'est un appareil qui me permet de voir le taux de sucre de produits finis. Parce qu'en France, on a une législation pour s'appeler confiture. On doit avoir un taux de Brix, ce qu'on appelle un taux de Brix. Donc c'est le taux de sucre. De 55% pour mettre en pot entre 55% et 65%.
C'est précis, oui.
Pour s'appeler confiture. En dessous, c'est une compote de fruits, ou une D'accord. préparation de fruits. Et donc, mon réfractomètre, c'est ce qui me sert à calculer mon taux de sucre. Moi, je mets à 55% de taux de Brix, parce que je veux pas
aller au-dessus. Le minimum.
Voilà, au minimum. Je veux pas aller au-dessus. Donc, je me sers de ça, évidemment, tous les jours. Et puis...
Ça, c'est comme un thermomètre, quoi. Tu le mets dans ta confiture.
C'est un petit appareil comme ça.
Ok, donc là, vous ne voyez pas, mais alors, ça ressemble à un boîtier.
C'est ça.
J'aurais pas imaginé ça comme ça, du coup. Mais c'est un boîtier avec un écran.
Voilà, où on met la confiture ici, dans ce petit œil-là, et qui nous donne le taux de sucre.
Ah, trop intéressant.
Voilà, avec la lumière, donc ça calcule automatiquement.
Ok.
Et ça, c'est mon... C'est mon outil de travail indispensable.
Bah oui, j'imagine.
Parce que même si elle a vu, on voit si la confiture a bien prise, mm-hmm. par rapport à l'habitude aussi, hein, au nappage autour du chaudron, etc. On est quand même obligé d'avoir ça pour pouvoir vendre, parce que c'est pas de la confiture qu'on fait à la maison comme ça et on met en pot. Non, on a quand même une réglementation à respecter. Hein.
Oui, et puis j'imagine des contrôles d'hygiène aussi.
Exactement. Exactement.
Ça, c'est les mêmes que pour un restaurant.
Pareil,
ou...
pareil, okay. pareil. Tout ce qui est contrôle d'hygiène, c'est le nettoyage des sols, le nettoyage du plan de travail, du tableau de cuisson. Enfin, on est obligé de respecter, évidemment. Hein.
Ouais.
Même si c'est cuit et très chaud à la mise en pot, on est obligé de respecter les conditions d'hygiène. C'est normal.
Ouais, c'est normal. On va passer à la deuxième partie de l'épisode autour de ce que ça suscite ton métier pour les autres. Toi, quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois et qu'on te demande ton métier, comment est-ce que tu le présentes, ton métier ?
Bah, je dis simplement, je suis artisan confiturier.
Ouais, et que t'as une boutique.
C'est ça.
Et généralement, ça suscite quoi comme réaction ?
Ah, mais c'est génial, mais c'est où ? C'est vraiment toi qui fais les confitures, ça on me pose souvent la question, mais c'est vraiment fait ici, c'est toi qui fais les confitures, c'est de la curiosité et à la fois un peu la Madeleine de Proust, quoi, de se revoir enfant. Souvent les gens ont cette image-là de la grand-mère ou de la maman, des moments un peu de douceur qu'on passait moi-même avec ma grand-mère à faire de la confiture, quoi. C'est souvent pas perçu comme une contrainte, les gens qui se souviennent de ça. C'est plutôt un beau moment, donc les gens sont plutôt contents de... Et puis bon, il y en a tellement peu que...
Oui.
On se demande si c'est un vrai métier.
Est-ce que ça existe encore ? Est-ce que c'est un vieux métier ou pas ?
Ouais, c'est quand même vieux. Ben, c'est de la transformation du fruit. Hein. Ça existe depuis toujours. Avant, les gens, pourquoi faisaient de la confiture ? C'était pour garder les fruits.
Oui, les conserver.
Les conserver, c'était ça. Pour avoir des fruits pendant l'hiver de l'été. Hein. Voilà, donc...
Et tu sais si on consomme plus de confiture aujourd'hui qu'avant ou pas ?
Je pense que oui, quand même. Je pense que oui. Parce que du coup, les gens l'utilisent pas que sur du pain et du fromage.
Oui.
Parce que...
des tartines, de pain.
Ils mangent avec du fromage, ils mangent avec des yaourts nature. Beaucoup de mamans, entre autres à la boutique, refont leur nature, leur yaourt elles-mêmes. Et plutôt que de mettre du sucre ou du miel, ou voilà, et ben elles mettent une cuillère de confiture. Comme elles sont... En tout cas, les miennes pas trop sucrées, avec des morceaux, ça leur fait une petite compotée de fruits. Et c'est ce que, en tout cas, le retour des clients dans la boutique, quoi. Ils mangent de la confiture avec de la raclette, avec du, avec du fromage, en mixologie aussi, dans des cocktails. Donc
c'est
ça
drôle.
Se décline, ouais, sur quand même beaucoup de choses. Et du coup, les gens la consomment autrement aussi. Ouais.
J'avais pas prévu cette question, mais du coup, ça me fait m'interroger si on en mange plus en France qu'ailleurs. Je sais pas du tout, parce que moi, j'ai l'impression que la tartine de pain, beurre, confiture, c'est très français, mais...
C'est très français, oui. Bon, en tout cas, quand on part en voyage, il y a toujours de la confiture dans les hôtels. je pense que oui, ça existe quand même. Enfin, oui. Je trouve que... En France, quand même, on est quand même attaché à nos petits déj, pain, beurre, confiture.
Et c'est marrant ce que tu disais, en effet, pour plein de gens, c'est un peu la Madeleine de Proust. Et en effet, c'est ce que je me disais en réfléchissant à ton métier, c'est qu'on peut pas, même si, je sais pas, je prends un extrême, t'aimes pas la confiture, tu peux pas être, ça peut pas être vu négativement ton métier, parce que déjà c'est de l'artisanat.
C'est ça. Et puis j'ai quelques clients qui me disent aussi, vous m'avez réconcilié avec la confiture, parce que du coup je mangeais plus de confiture parce que c'était trop sucré ou c'était très gélifié. Enfin, moi, tout ce que j'aime pas, d'abord moi-même je mange pas beaucoup de confiture, hein, pour être honnête, mais je vais en manger avec un fromage blanc, un yaourt. Alors, chez moi, évidemment, j'ai un mari qui est très gourmand, donc lui, c'est tous les jours pain, beurre, confiture. Mais oui, enfin, je trouve que ça amène quand même de la douceur. Nous, on l'a vu pendant le confinement, les gens étaient en manque de sucre,
de douceur. En fait.
Donc, ça leur faisait du bien quand même de pouvoir acheter la confiture, oui.
Ouais, c'est un peu un baume à l'âme.
C'est ça. C'est ça.
Ouais. Bon, bah, c'est sympa d'avoir un métier comme ça. Oui. Parce que tu vois, il y a des métiers où.
Exactement.
La critique est facile et elle arrive vite.
Oui.
Toi, c'est. En plus, tu peux. Franchement, la confiture, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas d'âge.
Les petits. Par exemple, aussi quelque chose que je fais depuis 3 ans maintenant. Parce que les enfants aiment pas trop les pépins de la framboise, donc je leur ai fait de la confiture sans les pépins.
Waouh.
Ce qu'on appelle de la confiture épépinée.
Okay.
Aussi parce que les gens ont quelques problèmes intestinaux, ouais. Donc ils peuvent plus manger de pépins. Donc ça aussi, j'essaye de chercher des solutions pour
de t'adapter,
que
ouais.
Tout le monde puisse manger de la confiture plus facilement.
Ah bah ça me fait penser à ce pain de mie sans bord. Donc tu peux manger ton pain de mie sans bord avec ta confiture sans pépin. Parfait. Je finis avec mes questions de la fin. Pour toi, pour sortir un petit peu de ton quotidien, est-ce qu'il y aura un autre métier que tu aurais adoré faire ?
Alors, moi, je pense que... Alors, j'ai fait plusieurs métiers avant de faire de la confiture. Hein. Je ne viens pas d'un métier de bouche du tout. Je pense que j'aurais aimé travailler dans les affaires criminelles.
Mais non, ouais. Je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas du tout à ça.
Je suis passionnée par la psychologie des gens, mais rien à voir avec ce que je fais. De me demander pourquoi certaines personnes en arrivent là et voilà, donc je lis beaucoup, je m'intéresse beaucoup là-dessus. C'est un métier que j'aurais bien aimé, faire commissaire dans les affaires criminelles.
Waouh.
Ouais.
Écoute, un prochain crime dans la cuisine.
Exactement.
La Est-ce qu'il y a un métier que tu aurais détesté faire ?
Que j'aurais détesté faire ? Non. Non, pas du tout. J'ai aucun métier qui me... Je veux toujours apprendre. Donc, même si demain, je devais faire un autre métier qui n'a rien à voir avec ce que je fais, la preuve, j'étais pas du tout dans ce milieu-là, il n'y a pas un métier qui me dit oh, « bah, j'aurais pas aimé ». Je pense que j'aurais pas aimé être dans un bureau face à un écran fermé tout le temps. Ça, j'ai besoin de contact, j'ai besoin de voir du monde, j'ai besoin de m'aérer la tête, quoi. Donc ça, être par exemple devant un tableau Excel, tout ça, toute la journée, ça, je n'aurais pas su, je pense.
Bon, ça, quand même, ça enlève pas mal de métiers.
Ouais.
Est-ce qu'il y a un métier pour finir dont tu connais le nom, mais tu ne sais pas vraiment ce que c'est et tu t'es toujours dit, je ne pourrais pas définir.
Non.
Non, il n'y a rien qui te vient. On ne t'a jamais dit, ah, moi, je fais ça. Et tu t'es dit, oula.
Bah, je suis tellement curieuse que je demande
toujours. Oui, tu poses des questions. Bah, c'est bien. Franchement, déjà, c'est la première des choses.
Donc, non. Non, non, pas du tout.
OK. Pour finir, tu me l'apprenais toi-même. Tu viens de sortir ton livre.
Exact.
Qui s'appelle ?
La Bible de la confiture.
OK, donc voilà. La Bible du confiture qui est un grand format, j'imagine.
Oui, chez Flammarion.
Chez Flammarion. Mmh. Pas mal de recettes, j'imagine, dedans.
Il y a 170 recettes dedans, de confitures, d'associations de fromages et de confitures, de pâtisseries, de cocktails. On a mis aussi un peu de chutney, donc des choses un peu plus salées. Voilà, je suis très contente du résultat. Je ne m'attendais pas à ça du tout. Mais je pense
à ça
que
quoi ? Au livre ?
Au livre, enfin, en être là où j'en suis en si peu de temps. J'ai beaucoup travaillé ces 5 dernières années. J'y ai passé beaucoup de temps à la fermeture du magasin, derrière dans l'atelier. J'y ai mis vraiment tout mon cœur et toutes mes forces et toute mon âme dans mon travail, vraiment. Je me dis que quand on veut, on peut et que... et que avec la volonté, on arrive quand même à avoir des résultats. Parce que quand Flammarion m'a contacté, au début, je pensais que c'était une blague ou je me suis dit c'est encore pour de la pub, voilà. Et en fait, pas du tout. Et j'ai rencontré une équipe qui était super, dont de femmes qui m'ont accompagnée dans l'écriture du livre, où je raconte un peu mon histoire avec ma grand-mère, etc. Du coup, c'est une très belle une belle récompense pour moi.
Ouais. Bah, c'est super. Bah, ouais. Pour tous ceux et toutes celles qui nous écoutent, ce serait la suite logique. Vous pourrez voir aussi, parce que là, on ne peut pas voir. Et puis, bah, si vous voulez goûter, c'est la boutique à Vincennes. Ça, il n'y a pas le choix. Il va falloir se déplacer. Merci beaucoup encore.
Merci à toi.
Merci pour ton accueil. Et puis, bah, à très bientôt.
À très vite.
Vous êtes à la fin de cet épisode. J'espère que mon échange avec Sandrine vous a plu et que vous aurez découvert derrière ce produit si courant tout le professionnalisme qui s'y cache. Si vous avez envie de découvrir les créations de Sandrine, vous pouvez suivre le compte Instagram Confiture de la Fabrique, donc tout attaché et avec un S à confiture. Son livre, qui est sorti donc en mars 2024, s'appelle La Bible de la Confiture et contient 170 recettes. De quoi se faire plaisir, je l'ai acheté, vous serez pas déçus. Merci à vous de suivre le podcast pour m'aider à faire vivre Into the Job. Parlez-en autour de vous, abonnez-vous bien sûr et mettez des commentaires. Allez, je vous dis à la prochaine. Bye.